Bonjour, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du podcast des maternelles. Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le podcast des maternelles, un sujet très fort qu'on a intitulé ainsi « Mon père n'est pas mon père ». Témoignage donc de Marie Lemelan, auteure du livre « Le syndrome du bâtard » que vous allez entendre avec Agathe Le Caron. Puis on va débriefer ce témoignage très fort, vous allez l'entendre, avec la psychologue clinicienne Yvonne Poncet-Bonisol. C'est parti.
Alors on le sait, les secrets de famille, ça peut peser lourd sur la vie des hommes, sur la vie des femmes. Marie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Alors vous aviez 29 ans quand votre mère a été contrainte de vous révéler un secret qui concerne votre père biologique. Et dans un livre qui vient de sortir, vous le racontez, ça s'appelle « Le syndrome du bâtard », c'est chez Flammarion. Et vous racontez à quel point ce silence sur votre filiation a imprégné finalement toute votre vie, parce qu'on va le voir dans votre témoignage, c'est présent tout le temps en fait, c'est vraiment étonnant, je trouve que c'est... On va après en parler évidemment avec notre psy, pour essayer de comprendre pourquoi. Alors on va planter le décor de votre enfance, vous êtes la petite dernière d'une fratrie de trois enfants, vous vivez une enfance confortable, vous êtes dans une famille bourgeoise de province, votre papa est médecin, et puis un jour... Vous n'avez que 8 ans, il y a un événement à l'école qui peut paraître totalement anodin pour nous, qui va pourtant vous frapper énormément.
Alors, j'ai effectivement 8 ans et je rejoins deux des jeunes filles de ma classe qui sont au fond de la cour de récréation, qui sont à côté d'un tas de feuilles mortes que le jardinier a collectées. Et ma meilleure amie est avec une petite fille qui est un peu le leader du groupe, de la classe, et je leur demande de quoi elle parle. Et alors qu'elle devait parler juste de ses feuilles mortes, cette petite fille, ce leader, me regarde et me dit si je te le dis, tu promets de jamais en parler, c'est un secret. Et elle me dit à quelqu'un d'enterrer sous les feuilles, ce qui est une bêtise d'enfant, mais ce qui, moi, provoque instantanément une espèce de froid dans mon corps. Et dès le lendemain, je développe des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs.
Alors, là, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il y a cette notion de secret. C'est un secret.
Oui.
Peut-être que c'est ça. Mais effectivement, vous le dites, dès le lendemain, il y a des TOC qui apparaissent chez vous. Et puis des phénomènes un peu, enfin vous maîtrisez pas, spasmophilie, agoraphobie, comment ça se manifestait?
Alors en fait, de 8 à 11 ans, j'ai des tocs de vérification. Je vérifie par exemple que le robinet de gaz dans la cuisine est constamment fermé. Donc je monte, je redescends, je fais ça à peu près une centaine de fois tous les soirs au moment de me coucher. Je trie mes peluches dans un certain ordre. Je vérifie quand je quitte la classe que le tableau est bien essuyé. Et je fais ça de manière complètement compulsive, comme si ça me permettait de cadrer un peu les angoisses émergentes. Et je fais ça à peu près jusqu'à 11 ans. Et puis après, la spasmophilie prend le relais, des crises de tétanie, de l'agoraphobie, jusqu'à l'âge de 19 ans où j'arrête de manger et je deviens anorexique pendant quelques années.
Alors, c'est un malaise, évidemment, qui suintait, parce que vous êtes toute petite quand ça commence. Oui. Comment est-ce qu'on réagit, vos parents? Est-ce qu'ils ont capté, déjà?
Non, je ne leur en ai pas parlé.
Vous faisiez ça vraiment
en secret? Je faisais ça en secret. Et... une seule fois, je me suis manifestée auprès de ma mère en lui disant que j'entendais des voix, parce que j'avais vraiment l'impression que les tocs étaient dirigés par quelqu'un qui, dans ma tête, me disait de faire ceci ou de faire cela. Et elle n'a pas, je crois, à cette époque, on ne parlait pas non plus de ce genre
la
de choses.
La parole était moins libre. Mais comment, c'était quelle mère avec vous? Est-ce que c'était une mère câline? Est-ce qu'elle était présente? Est-ce que quand même vous aviez des conversations?
Elle était présente, elle s'occupait beaucoup de moi et de mes frères. Et elle était, pour le reste du monde, elle était câline. Sauf que moi, ce que je percevais quand j'étais avec elle, c'était une espèce de froid glacial, comme si la communication était coupée entre nous et la communication inconsciente, si je puis dire.
C'est-à-dire que vous ne le disiez pas, mais vous le ressentiez.
Je le ressentais, très très fort.
Donc, on l'a compris, adolescence très tourmentée. Vous avez dit qu'à 18 ans, vous aviez développé une anorexie. Et puis ensuite, vous êtes tombée enceinte 10 ans après. C'était en 2007, enfin, que votre petite fille est née. Forcément, alors on le sait mieux que personne dans cette émission, quand on a un enfant, c'est la tempête affective, il y a beaucoup de choses qui remontent. Est-ce que ça a déclenché des choses chez vous?
J'étais très, très heureuse d'être enceinte. Le jour où j'ai appris que c'était une fille, ça s'est grippé. C'est comme si quelque chose dans le mécanisme de transmission s'arrêtait et coinçait. j'avais beaucoup de mal à me projeter en tant que mère d'une petite fille, puisque ça me renvoyait en miroir à ma relation de fille avec ma mère. J'avais l'impression que je ne disposais d'aucune info. Je ne savais pas ce que j'allais transmettre à mon enfant. Je me suis retrouvée assez désemparée, en effet.
Et vous êtes fait suivre aussi hein, par une psy?
À ce moment-là, je me suis fait suivre par une psy spécialisée en psychogénéalogie. Mmh. On a un peu fait un tour de ma famille et des dynamiques à l'œuvre dans ma famille. Et assez rapidement, elle a évoqué la piste d'un secret, sans savoir de quoi il pouvait s'agir et sans savoir si c'était moi le secret ou si j'avais hérité d'un fantôme.
Oui, qui pourrait aurait
très bien pu remonter
de,
absolument, voilà, de plusieurs générations au-dessus. Et donc, son seul conseil, ça a été de poser des questions.
Elle vous a invité à vraiment poser des questions à votre maman.
Elle m'a dit, interrogez vos parents, vos proches, pour savoir s'il y a quelque chose dont vous avez pu hériter de manière tout à fait inconsciente.
C'est fou. Ouais. Alors, vous avez déjeuné avec votre maman, c'était en juillet 2008.
Oui.
Vous avez 29 ans à l'époque.
Oui.
Un déjeuner que vous n'êtes pas prêt d'oublier.
Je ne suis pas prêt d'oublier. Un déjeuner avec une mère avec laquelle je n'étais pas forcément très intime, avec cette conviction que j'avais quelque chose à lui demander et surtout à obtenir d'elle une info sans savoir ce que c'est. Et puis, à la fin du déjeuner, j'évoque la piste d'un éventuel secret et puis, la voyant plutôt réfractaire à toute communication à ce sujet, finalement, je ne sais pas comment, j'ai su que ça me concernait et que ça concernait mon lien au père. Et donc, c'est moi qui lui ai dit, en fait. C'est sorti comme ça, comme si je décapsulais quelque chose à l'intérieur de moi. Je lui ai dit que je n'étais pas la fille de mon père. Elle m'a répondu instantanément qu'effectivement, je n'étais pas sa fille biologique.
Donc, elle n'a pas nié.
Elle n'a pas nié.
Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça veut dire que vous l'avez toujours su.
Oui. Je pense que c'était là. Je pense que cet événement que j'ai vécu à 8 ans a juste appuyé sur un bouton. Il a fallu que les tocs ont permis que ça ne me fasse pas complètement imploser à l'époque. Et c'était là, et elle n'aurait pas pu me le dire elle-même, je pense. Impossible.
Elle vous a raconté comment ça s'était passé? Qui était cet homme?
Elle m'a raconté avec... j'ai dû aller chercher les infos, mais j'ai eu un nom et un prénom, une info essentielle sur leur rencontre et cette relation dont j'étais née. Donc j'ai très vite su que c'était une histoire d'amour. Mais dans des conditions où les deux étaient mariés, donc il fallait le taire. Et puis, très vite, elle m'a demandé de le taire, de garder le secret.
Vous avez demandé de garder le secret.
Oui, parce que pour elle, c'était un événement plutôt honteux et qu'il ne fallait pas le partager. Et en fait, j'ai récupéré ces infos en étant tellement heureuse de partager quelque chose avec elle à ce moment-là, comme si le secret nous réunissait finalement, que j'ai accepté de ne pas en parler à ma famille. J'en ai parlé à mes proches, à mon amoureux de l'époque et évidemment à mes amis, mais... ma famille ne l'a su qu'un an après.
Ah oui, alors la vérité a éclaté dans votre famille? Comment ça s'est passé?
Finalement, j'ai plongé dans une espèce de dépression qui ne disait pas vraiment son nom. Je n'ai pas vraiment compris à quel point garder le secret à mon tour allait me faire plonger. Je me suis confiée à ma belle-sœur à l'époque, qui s'est confiée à un de mes frères. Et le secret m'a tout à fait échappé, en fait.
Mmh. Et alors, vous espériez, j'imagine, un changement? Peut-être une parole qui se libère? Et ça ne s'est pas produit?
Non, je pense que... c'est pas ce que je pense, c'est ce qui se passe généralement dans les familles à secret, c'est qu'on espère qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir une réunion de famille, mais c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, tant que la parole n'est pas partagée au même moment par tous les protagonistes, c'est très facile d'étouffer le feu, et puis en fait, il ne se passe rien. Donc je suis restée assez isolée avec cette histoire.
Et votre père, celui qui vous a élevé, l'a appris ce jour-là aussi?
Il l'a appris, il m'a contactée en ayant du mal à y croire. Et j'ai proposé très vite qu'on réalise un test ADN en Belgique avec ma mère et lui pour vérifier effectivement. Test qui a complètement mis de côté un éventuel lien de paternité biologique entre nous.
Mais il vous a rassuré sur son... l'amour pour vous. Enfin, j'imagine que c'est très perturbant pour lui aussi.
Je pense que c'était perturbant. Le biais ici, c'est que pour lui, sa phrase a été « ça ne change rien ». Moi, ce que j'ai entendu, c'est « ça ne change rien, donc on n'en parle pas, ça n'est pas nécessaire ». Et c'est ce que j'ai beaucoup entendu par la suite, c'est « après tout, c'est vrai que ça ne change rien puisque tu as un père ». Quand moi, j'étais morcelée à l'intérieur puisque tout ce sur quoi je m'étais construite pendant quasiment 30 ans était faux. Et je n'avais rien pour remplacer. Donc, c'est comme si vous aviez un album de famille, vous arrachiez toutes les photos, et il n'y a rien pour remplacer ces photos-là. Je me sentais reliée à rien, en fait.
Il vous aura fallu 5 ans d'enquête pour retrouver votre père biologique. La rencontre s'est faite à New York. Ouais. C'était le jour des 6 ans de votre fille.
Ouais.
Un beau symbole. C'était le 29 mars 2013.
Dingue.
Ouais, c'est ça.
Dingue, j'ai retrouvé sa trace, ça a été un peu compliqué, mais je l'ai retrouvé, on s'est vu, je pensais prendre un café avec lui, Et puis, en fait, on s'est vus... j'ai profité de ce déplacement pour rester une semaine sur place, forcément. Et puis, en fait, on s'est vus tous les jours pendant mon séjour. Et puis, on est allés au musée, déjeuner.
Il y a eu un lien tout de suite ?
Je ne parlerai pas de lien, je parlerai d'une reconnaissance. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de le voir, de voir de quoi j'avais pu hériter de lui physiquement, des traits de caractère. Mmh. Et j'avais besoin de boucler cette boucle-là, que lui me donne sa version des faits. Et c'était pour moi en aucun cas une nécessité de rentrer dans sa vie. Il fallait juste qu'il me voie, que je le voie, et puis c'était tout.
Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à la naissance de votre fils en 2015, que vous avez eu avec un nouveau compagnon, ouais. Vous n'arriviez pas à vous décider sur le prénom, vous hésitiez, etc. Et vous avez découvert plus tard que le choix que vous avez fait était forcément pas un hasard.
Donc j'ai accouché et puis trois jours après la naissance, sans prénom, effectivement, j'ai eu une intuition. En tout cas, l'impression qu'il fallait que j'appelle mon fils de cette manière, sans vraiment comprendre pourquoi. Et un an après, j'ai découvert que c'était le second prénom de mon père biologique.
C'est incroyable.
C'est incroyable.
Incroyable. Ouais. Alors c'est vrai qu'après la révélation de votre situation, vous vous êtes dit, tiens, il n'y a aucun mot en fait qui définit ma situation, d'où votre emploi du mot bâtard, qui est un mot très fort, mais évidemment on comprend bien ce que ça veut dire. Vous avez créé un site qui s'appelle Bande de bâtards, ça vous a permis d'échanger aussi avec d'autres personnes qui sont victimes, parce qu'on peut peut-être parler quand même,
on peut
prononcer ce mot, de ces secrets de famille. Vous êtes reconstruite et aujourd'hui ça va comment ?
Ça va très bien parce que je suis dans le partage et parce que en créant le site et puis maintenant avec le livre, je pense que j'ai essayé de créer les outils que je cherchais moi à l'époque. Mmh. Et c'est vrai que quand j'ai découvert que je n'étais pas la fille biologique de mon père, j'ai foncé en librairie et j'ai demandé un livre, en tout cas quelque chose qui existe. Et il n'y avait rien qui compile un peu toutes ces émotions contradictoires qui vous traversent. Comme personne n'en parle puisqu'il n'y a pas de mots aujourd'hui, en décidant de me réapproprier ce mot « bâtard » qui est effectivement très fort, mais qui ne gêne que ceux qui n'ont pas vécu cette situation, j'ai voulu un peu replanter le décor et me réapproprier ce récit familial-là. Et donc ça va, puisque je partage et qu'en retour, les gens qui ont vécu exactement la même histoire que moi se retrouvent dans cette histoire et dans ce parcours.
Moi, je vais vous dire, je pourrais en parler pendant deux heures, tellement il y a de questions qui me viennent dans la tête. Bonjour Yvonne Poncet-Bonisol.
Bonjour Agathe.
On est très heureux de vous avoir sur le plateau.
Extraordinaire.
Ah, on est bien ici. Hein.
Une émission intelligente, accueillante, empathique, extraordinaire, qui transmet des choses essentielles.
Yvonne.
Les chroniqueurs sont beaux aussi.
Hein. C'est magnifique.
Bien sûr.
L'animatrice, en revanche, a l'air bien crevée aujourd'hui, mais ça, c'est vrai.
Bon, c'est un bonheur.
Bon, allez, je précise que vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste. Votre dernier bouquin s'appelle Secrets de famille, c'est Silence qui nous gâche la vie. C'est aux éditions Larousse. On entend beaucoup d'histoires de révélations, hein, comme dans l'histoire de Marie, et souvent, ça concerne le père. Dans votre pratique, quels sont les secrets que vous rencontrez le plus fréquemment ?
Alors, bien sûr, les secrets et les plus fréquents touchent à la filiation, c'est-à-dire qui on est, d'où on vient. Il y a des secrets, mon père n'est pas mon père, mais il y a aussi ma mère n'est pas ma mère. Dès lors que finalement, à la naissance, un enfant est abandonné ou a perdu sa maman en couche, eh bien, l'enfant est parfois adopté par une sœur ou un oncle. Et donc là, il y a quelque chose qui porte sur la filiation. Donc, la majorité des secrets, c'est la filiation. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres secrets qui sont très importants. Ça touche sur, finalement, la conception, c'est-à-dire la PMA, les dons d'ovocytes, les dons de gamètes. Là aussi, il y a finalement une errance qui est mon père, ou alors quand il y a des dons d'ovules, qui est ma mère. Là, il y a tout, finalement, un questionnement très, très important. Donc, première, la majorité des secrets qui portent sur les origines, c'est d'où l'on vient, qui on est, qui sont nos géniteurs. Première, c'est les secrets de plomb. Mmh. Les deuxièmes secrets portent surtout sur tout ce qui est de l'ordre de la transgression, sachant qu'un secret, il est fabriqué par quoi ? Il est fabriqué par la honte et la culpabilité. Mmh. Il faut en apparence que tout soit parfait. On doit être digne dans cette famille et on tait ce qui est honteux. Alors, qu'est-ce qui est honteux ? Les suicides, les maladies mentales, les escroqueries, les faillites, tout ce qui finalement pourrait faire ombrage à la dignité familiale.
Et la génération d'avant, c'était le rôle pendant la guerre.
Voilà.
Des parents.
Alors les collabos.
Ouais, les collabos.
Les collabos. Donc tout ça on le tait. Et bien souvent, quand on recherche, quand on trouve finalement un des parents qui est collabo, eh bien on a vraiment un choc. Mmh. Et on comprend certaines choses, certains doutes, certains silences qui ont hanté notre vie.
On a reçu une très bonne question, vous allez voir en vidéo, d'Alix.
Bonjour la maison des maternelles. Puisqu'un secret de famille, par définition, est tu, comment est-ce possible qu'il se transmette de génération en génération? On parle d'épigénétique, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Merci.
Une question passionnante. Alors, il est vrai qu'il faut, pour expliquer ce problème de l'épigénétique, il faut savoir qu'un secret se fabrique sur trois générations. La première génération...
Ça, c'est étudié, ça.
C'est étudié. Connaît le secret, bien entendu. La deuxième, c'est confusément qu'il y a quelque chose qu'on lui cache, mais ne connaît pas le contenu. Et la troisième, eh bien, ne sait absolument pas qu'elle est prisonnière d'un secret de famille. Alors, il est vrai que l'épigénétique montre que finalement,
l'épigénétique, c'est ce qu'il y a autour de nos gènes,
de notre ADN,
c'est
si
l'ADN,
vous voulez,
voilà.
C'est notre ADN. Et que notre ADN serait habité par notre histoire et par l'histoire de nos ancêtres. Finalement, on porte en nous non seulement un inconscient familial, mais notre ADN est modifié par nos histoires de famille et donc nos secrets et les non-dits.
Par exemple, on a la phobie d'avoir des enfants qui soient orphelins. On se rend compte que notre grand-mère a été orpheline.
Voilà.
Yasmine, une question.
Une question de Daniel, en fait, qui demande quelles sont les conséquences que peuvent avoir les secrets de famille sur le plan médical. Quels sont est-ce qu'on peut somatiser? On l'a vu avec Marie, mais est-ce que vous avez des exemples de symptômes?
Alors Marie, c'est vrai, il y a des tox, il y a effectivement l'anorexie aussi. Il y a d'autres symptômes qui touche particulièrement à tout ce qui est intestinal. Des maux de ventre, des boules au ventre, des angoisses qui vont et qui viennent.
On allô, maman, parce que là, ouais, là je te parle.
Donc, il y a de l'eczéma aussi. Il y a parfois des eczémas atypiques et qui reviennent parce que l'eczéma, c'est souvent une peau qui crie de l'affection, un besoin d'amour. Donc, ça peut effectivement se transmettre de génération en génération. Ou alors, on peut hériter effectivement d'une problématique somatique des grands-parents.
On y va ?
On y va.
Allez, première question à envoyer à l'instant. Une lettre anonyme m'a appris que j'étais une enfant illégitime. Un test ADN l'a confirmé, mais mes parents étant décédés, je n'ai plus personne pour répondre à mes questions. Du coup, elle vous demande comment sortir de ce malaise.
Ah, ça, c'est
très
bien.
Complexe, très, très complexe. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'elle le sait. Donc, la révélation est faite. Il faut savoir que la révélation ne fait pas tout. C'est le début d'un parcours. Alors, comme ses parents sont décédés, il faut aller à la recherche, finalement, de qui était-il.
Mais qui a envoyé la lettre?
Et qui a envoyé la lettre?
Et alors, voilà, quel avantage? Que ce soit un corbeau qui apprenne la réalité, ça...
Alors, bien souvent, il y a des intérêts derrière. Il faut savoir par rapport à des héritages. Puis finalement, si ce n'était pas des demi-frères, des demi-sœurs. Donc, parce que bien souvent, les secrets de famille se révèlent au moment des décès et chez le notaire. Donc, pour cette dame, je pense qu'il serait important qu'elle aille à la recherche de sa généalogie et de qui était vraiment son vrai père. Voilà, je pense que la filiation est importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les sites de généalogie flambent. Donc, il y a cette passion pour ça. Savoir d'où je viens, qui suis-je. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut qu'elle pardonne à ses parents, quelque part, post-mortem, pour continuer à vivre d'une manière légère et sereine. Il faut vraiment cette notion de pardon, aller sur leur tombe, écoute, je te pardonne, tu n'as pas pu me le dire parce que tu en avais honte, tu n'as pas réussi à le dire. Je crois que c'est des choses qui peuvent se dire sur la tombe.
J'imagine qu'un petit accompagnement psychologique ne fait pas de mal dans ce genre de situation.
On est d'accord. Ou alors, écrire une lettre aussi, tout ce qui vous passe par la tête.
Ça libère, ça.
Ça libère, l'écrit libère et révélateur de... Voilà. Et donc, écrire une lettre, ça me paraît aussi bien.
C'est une bonne idée.
Voilà.
Alors, on a une autre question. Bonjour, depuis sa naissance, je cache à mon fils une grossesse gémellaire. J'ai peur de le traumatiser car lui seul est né. J'ai entendu parler du syndrome du jumeau fantôme. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que ça, c'est...
Alors, c'est aussi une excellente question et c'est une interrogation légitime. Le syndrome du jumeau perdu, alors c'est fréquent quand effectivement il y a des grossesses gémellaires. L'enfant qui est survivant a l'impression finalement de vivre parfois pour deux. Et on découvre d'ailleurs dans cette dynamique qu'il a envie de faire de la plongée, d'aller à la recherche de quelque chose sans le savoir.
D'accord.
Il est curieux de tout, l'enfant qui est resté. Donc, l'idéal, c'est de lui dire, écoute, tu sais, j'attendais deux enfants, voilà, il y en a un qui n'a pas survécu, mais ça ne veut pas dire que tu as pris toute la place. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'enfant sache que c'est à cause de lui que l'autre n'a pas survécu. Donc, il faut une forme de déculpabilisation tout à fait simple. On n'a pas besoin de lui raconter absolument tout, mais on peut lui dire, voilà, il n'a pas survécu parce qu'il était trop fragile, c'est pas de ta faute, point.
Mais on fait pas, pardon, Yasmine, mais j'imagine que ce n'est pas solennel, ce n'est pas une annonce solennelle qu'on fait. On en parle naturellement.
Léger, naturellement. Avec les enfants, il faut être très naturel, mais pas rentrer trop dans les détails non plus.
Peut-être qu'elle anticipe en fait sa question qui serait, je ne sais pas quel âge a cet enfant, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Donc, est-ce que ça, il y a quelque chose de simple pour expliquer peut-être naturellement que voilà, elle a eu du mal à le dire ?
Parce qu'elle pensait que finalement, ce n'était pas important. Donc, le dire tout simplement. Moi, vous savez, j'attendais des triplés, je vous donne cet exemple. Ma fille, un jour, me dit, « Maman, j'en ai assez, je ne supporte pas les chiffres impairs, le chiffre 3 m'énerve. » Je dis, « je vais t'expliquer pourquoi. » Et elle a ri, et c'est, voilà, tout simplement, le plus simplement du monde. Elle me dit, c'est vrai, j'ai peut-être pris toute la place. Je lui dis, mais non. Donc, il y a peut-être une forme de culpabilité quand, effectivement, ils ont vécu ensemble in utero, à deux, et que maintenant, il est seul survivant.
Élodie nous dit, ayant été victime d'inceste, je n'ai pas de contact avec mon père. Comment répondre aux questions de mes enfants qui sont, par exemple, et toi, il est où ton papa ? Pourquoi je ne le vois pas ?
Alors ça, je pense qu'il faut là aussi le dire. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est non-dit, tout ce qui est secret, surtout en ce qui concerne les attouchements, un petit peu tout ce qui est pédophilie, tous les attouchements, il faut le révéler parce qu'on y met de la loi. Si on ne met pas de la loi, eh bien ça se répète jusqu'à ce que finalement la vérité explose. Donc je crois qu'il faut pouvoir le dire pour que sa répétition s'arrête à la génération de ses enfants.
Et que les choses soient remises en place et que chaque juste.
Voilà, pour qu'il y ait une forme de justesse et que la loi apparaisse. Dire déjà, c'est mettre un acte, c'est mettre des limites et c'est poser la loi familiale.
Oui, c'est ça. Et donc là aussi, on le dit, bon, alors avec légèreté, c'est compliqué, mais on le dit avec des mots simples et on explique.
Tout simple. Voilà, tu sais, il n'était peut-être pas très équilibré.
Il m'a fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire.
Ton corps t'appartient. Voilà. Donc des choses comme ça. Ton corps t'appartient, tu dois te respecter. Et si jamais ça t'arrive, surtout, tu fais en sorte que tu m'en parles.
Une question de Valérie. Ma fille de 10 ans a des TOC depuis peu. Il existe un secret dans ma famille dont je ne lui ai pas encore parlé. Est-ce que ça peut être lié ? Comment lui en parler sans la perturber davantage ?
Alors, les TOC, c'est effectivement quelque chose qui condense l'angoisse. C'est des paravents contre l'angoisse. Et si ce sont des TOC de vérification, il est vrai que l'enfant est à la recherche de quelque chose qu'il ne connaît pas. Je vais vérifier si je suis bien à la bonne place, la bonne personne, si mon père est bien mon père. Donc, c'est TOC de vérification. Comment le lui dire le plus simplement du monde ? Et déjà que quand il y a des TOC, ça veut dire qu'il y a une symptomatologie due au secret. Il faut l'évoquer. Mais il faut préparer aussi la révélation d'un secret. Ça ne se dit pas de but en blanc, ni au téléphone, par exemple, ni en colère, par exemple, si l'enfant a fait une crise. Ouais, tu sais, puis voilà, ton père n'est pas ton père. Enfin, ça ne se dit pas. On ne dit pas le secret sous un mode colérique et sous un mode pulsionnel. On le prépare. Donc, lui dire avec, s'il est petit, lui dire par exemple avec des petites histoires, raconter une histoire qui serait la sienne mais avec des personnages et progressivement amener la vérité.
Pauline nous dit, ma fille qui va bientôt être maman commence à me poser des questions sur ses origines. Je ne lui ai jamais tout dit. Comment et dans quel contexte lui en parler pour que cela se passe au mieux ? C'est vrai que la grossesse peut...
Déclencher
déjà une envie de savoir certaines choses. Et...
Alors, la grossesse déclenche finalement déjà notre propre vécu, in utero éventuellement. Et quand on accouche, on revoit sa propre naissance. Donc, c'est le moment idéal. S'il y a des choses, s'il y a des zones d'ombre, c'est le moment idéal pour mettre un éclairage sur ces zones d'ombre et le dire, l'évoquer, le plus simplement du monde. Je veux dire que lors d'un déjeuner, j'ai quelque chose à te dire, pas obligatoirement ritualisé, mais quand même dans une forme de bienveillance. Oui. Un secret, ça se lève, ça se dévoile dans la bienveillance. Pourquoi ? Parce que ça peut faire l'effet d'une bombe à retardement. Donc, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais la révélation, c'est pas tout. C'est la première pierre dans son évolution. On a l'impression d'être complet, mais d'un autre côté, ça remue énormément.
Oui, c'est-à-dire que c'est le premier jour du reste de sa vie, quand même.
C'est ça, voilà.
Nour vous demande, on nous encourage aujourd'hui à parler de tout aux enfants, mais je trouve que toute vérité n'est pas bonne à dire. Sur quel sujet est-il vraiment indispensable d'être transparent avec eux ?
Alors, on est effectivement dans la dictature de la transparence. Alors, tout ne peut pas se dire. Et il ne faut pas confondre secret et jardin secret. Je veux dire, tout ce qui est de l'ordre de vos fantasmes, de votre intimité, vous n'allez pas raconter ça à vos enfants, tout ce qui est de l'ordre de votre intimité vous appartient. Mais, et ça, c'est votre jardin secret, donc tout ne doit pas se dire.
Marie, il ne faudra pas raconter à vos enfants votre soirée d'hier. Non. C'est votre jardin secret.
Oui, c'est votre intimité, Marie.
Oh, oui. Exactement. On se tait.
Chloé vous demande s'il y a un âge minimum pour parler à un bébé d'un secret sur ses origines. Est-ce que ça a vraiment un intérêt chez un nouveau-né puisqu'il ne comprend pas nos mots?
Alors, très intéressant. Il faut le dire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que du coup, la maman ou le papa, enfin les parents, ne sont plus prisonniers de secrets, mais ils ont libéré, donc ils sont plus que les gardiens. Et l'enfant, même s'il ne le comprend pas, eh bien, fait en sorte qu'il sait inconsciemment qu'il n'y a pas de secret. Ça a été dit. Alors, concernant par exemple les PMA ou les fécondations in vitro, eh bien, il faut le dire très, très tôt en disant, bah, tu vois, c'est grâce à toute cette équipe que tu es née, mais vraiment, c'est extraordinaire. Une fois que c'est dit, c'est dit.
Et si jamais la personne n'a pas osé le dire parce que dans sa propre histoire, c'est compliqué ou parce qu'elle a peur, je pense par exemple à un don d'ovocytes, une mère qui aurait l'impression qu'on lui enlève sa légitimité de mère, comment est-ce qu'on se rattrape quand les enfants ont grandi?
Alors, quand on a vu un don d'ovocytes, par exemple, ça, c'est un vrai sujet, il faut pouvoir dire que finalement, vous l'avez porté, que les petites cellules, finalement, n'étaient pas les siennes, mais néanmoins, elle l'a portée, donc elle l'a choyée, et qu'elle est sa maman. Oui. Mais il faut oser le dire. Et surtout, il y a quelque chose qui est très, très, très important. Pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'on en a honte. Donc, il faut travailler sur sa propre honte et sur sa propre culpabilité.
J'imagine que les femmes qui ont vécu ça, elles ont l'impression de ne pas avoir été aptes.
C'est ça.
Donc, c'est très difficile.
Donc, la honte et la culpabilité, l'impression d'être une mauvaise mère. Donc, ça, il faut balayer, il faut oser le dire. L'authenticité, vous savez, c'est générateur de légèreté et de bien-être. Vous le savez.
Ah bah oui, vous savez que je suis la spécialiste du bien-être.
Maintenant. Oui.
Inès dit, j'ai 32 ans et j'ai toujours eu ce sentiment que quelque chose clochait dans ma famille, mais je ne sais pas comment enquêter. Par où commencer? Existe-t-il des thérapies spécifiques?
Oui, alors on parle de constellation familiale, où on essaie de voir finalement si dans un de nos ancêtres ou dans notre propre famille, dans notre premier cercle, il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Donc on fait des constellations familiales ou de la psychogénéalogie.
Oui, la psychogénéalogie, donc c'est un psychologue qui étudie l'arbre.
L'arbre. Et on voit où ça, quelque part, où il y a eu un dysfonctionnement. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas non plus...
Vous parlez de constellation familiale, mais c'est quoi,
en fait? Alors, on se retrouve, je crois, en groupe, et puis chacun des participants a une fonction dans la famille, dans l'arbre généalogique. Donc, moi, je n'en fais pas, je sais, c'est comme ça que ça se passe. Mais néanmoins, il y a quelque chose quand même qui est très important. On parle toujours du secret. Tout n'est pas lié au secret. Je veux dire que...
Oui. Non, mais là, elle sent qu'il y a quelque chose et elle aimerait enquêter, quoi. Donc,
oui, alors si elle sent, c'est peut-être pas obligatoirement sur ses origines, mais c'est sur des choses qui se sont peut-être passées. Donc là, il faut aller à la recherche, finalement, de l'histoire, de ce qui a été fait dans son histoire. Comme on disait, les collabos, les trucs. Peut-être ce mal-être qui vient de quelque chose qui a été transgressif dans sa famille.
Qu'elle reprenne son arbre, alors.
Voilà, qu'elle reprenne son arbre.
Merci beaucoup Yvonne Poncet Bonisol, merci Marie Lemelan. Et donc ce livre, Le syndrome du bâtard. On se retrouve demain, chouette alors, on sera vendredi. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. J'espère que vous nous écoutez dans de bonnes conditions. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter de nuit. Donc peut-être des insomnies, peut-être des enfants qui vous empêchent de dormir. Si c'est le cas, je parle un peu moins fort et je vous souhaite de trouver le sommeil. Ciao tout le monde.